102.1.
Bon, on est rendu à aller le voir. On l'a assez fait patienter, Pascal Cévin, avec nos histoires de Patrick Bruel, puis de Ryan Stein, puis de Michael Jackson.
Puis du DSM. Quelqu'un nous dit c'est la technique. Patrick Huard, tu fermes ta gueule.
Je savais pas que le gouvernement était bon humour.
Non, non, ça, c'est notre auditeur.
Je le sais, je le sais. Il devrait s'inspirer de notre auditeur. Gabriel Giguère est avec nous pour sa chronique économique. Il est analyste politique senior à l'Institut économique de Montréal. Gab, comment vas-tu?
Ça va bien, j'ai beaucoup appris dans les dernières minutes.
Ah, oh, merci.
Appris sur quoi?
Merci. Ouais,
qu'est-ce? Ah, sur le DSN, sur Monsieur Bruel également, tristement, devrais-je dire.
Ouais, exactement. Très tristement, il n'y a pas de doute là-dessus. Hey Gab, je commence avec ça parce que là, Daniel Smith a rencontré Mark Carney ce matin. On parle d'un référendum en octobre pour la souveraineté de l'Alberta. Si t'es Mark Carney ce matin, t'as plus peur de la souveraineté du Québec ou de l'Alberta?
Ben, je dirais que le taux d'appui semble environ dans les mêmes eaux. Hein. On gravite autour de 30% au Québec ou au Canada. Puis je pense que Mark Carney, il comprend que c'est des raisons vastement différentes. En Alberta, on parle beaucoup de la question économique, le secteur gazier pétrolier. On l'a vu dans les dernières années au fédéral, là, comment on a mis en place de la réglementation qui est venue freiner le déploiement. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris pas plus tard qu'hier matin? Ben, c'est que Mark Carney a décidé, et on verra si ça va de l'avant, mais de réformer le cadre réglementaire pour rendre plus rapide, en fait, le déploiement des infrastructures énergétiques pour permettre de diversifier les exportations ou sinon simplement d'augmenter les exportations des hydrocarbures en Alberta. Donc, concrètement, de venir adresser des éléments précis qui sont demandés par les Albertains, notamment le groupe séparatiste, plutôt souverainiste, je devrais dire. Donc, ça va être à voir, mais je pense qu'il essaie de prendre la mesure de la question en ce moment en proposant des nouvelles politiques publiques.
Bien, je pense que c'est intéressant, pareil, la question de Jeff là-dedans, parce que au niveau économique, là, si le Québec se dissocie du Canada ou l'Alberta, y en a-tu un ou un autre qui coûterait plus cher et qui ferait plus mal au pays?
Ben, c'est une bonne question parce que le Québec, on le sait, là, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards pour le Canada, ne serait-ce qu'en impôts. Donc, c'est sûr que ça ferait mal. Là. Je veux dire, quand on regarde, là, c'est un habitant sur cinq, même un petit peu plus qu'un habitant sur cinq, le Québec. Donc, c'est un gros morceau là, du pays. Il faut le comprendre, le Québec. L'Alberta aussi, on est en croissance démographique. Donc, ça, c'est important. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle en matière de qualité de vie, ou plutôt de niveau de vie, je devrais dire, plus que de qualité de vie, l'Alberta est vastement supérieure au Québec. Et c'est pas pour rien qu'à la fin, quand le gouvernement du Canada fait les comptes à travers la question de la péréquation, mais c'est quand même le Québec là, qui va aller chercher de l'argent, notamment de l'Alberta, parce qu'en Alberta, on vient produire des ressources. Et j'irais même plus loin, quand on regarde les exportations canadiennes, le gaz et le pétrole albertain, quand on prend ça là, dans l'agrégat, là, c'est environ un dollar d'exportation sur quatre. C'est énorme. Le Québec n'a pas ça.
Mais notre prétention de croire était là que l'Alberta pourrait faire souffrir encore plus le pays.
Ça pourrait faire très certainement mal, mais encore une fois, devant cette possibilité-là, je pense que ça explique l'approche de Mark Carney de dire c'est quoi le problème avec l'Alberta, la question économique, notamment du gaz et du pétrole, on va déposer un projet de loi. Mais vous savez, le diable est dans les détails. On peut en déposer des projets de loi. Sera-t-il adopté? Sera-t-il à la mesure, à la hauteur des attentes des Albertains? Je pense que l'avenir nous le dira.
Gabriel Giguère, je regarde les statistiques en emploi et là, je me dis la crise tarifaire vient de nous frapper en plein visage en 2026. 43 000 emplois perdus en avril au Québec. C'est la deuxième baisse mensuelle significative. On parle de 91 000 pertes d'emplois, donc moins 1,9% de janvier à avril. Et dans notre métropole à Montréal, c'est 56 000 emplois qui ont été perdus, donc moins 2,3% du côté des emplois. Ça va vraiment pas bien, là. Gab, est-ce que c'est des chiffres qui nous amènent vers une récession?
Ben, c'est des chiffres très certainement qui doivent allumer le voyant rouge, c'est-à-dire qu'on voit une baisse d'emploi en construction, une baisse d'emploi en fabrication, une baisse d'emploi même dans le secteur financier. Donc, c'est vraiment le secteur privé qui est lourdement frappé. Puis, on peut pas tant surprendre parce que quand on analyse notamment l'impact des tarifs douaniers, il est beaucoup plus élevé cette année parce qu'on est venu modifier l'étendue à travers lequel le nombre de produits est affecté. Avant, c'était environ une moyenne de 5 %. On est monté aux alentours de 9 %. On a récemment vu ça et ça, c'est peut-être juste 4 points de pourcentage de plus, mais sur un volume de dizaines et de dizaines de milliards de dollars d'exportation vers les États-Unis du Québec, il y a un impact parce que les entreprises québécoises, en ayant un tarif douanier plus élevé ou simplement un tarif douanier, bien, ça vient réduire le caractère concurrentiel par rapport aux entreprises américaines, même si, j'ai envie de vous dire, même si c'est les États-Unis qui payent plus cher, hein, parce que, bien, évidemment, s'il y a une taxe qui doit être payée par les entreprises américaines pour une importation, ça va payer plus cher, mais ça fait en sorte qu'au final, si on décide d'aller de l'avant avec une entreprise américaine plutôt que québécoise, parce que celle qui est américaine n'a pas de tarif douanier, ben, vous allez quand même payer plus cher, parce que si c'était 100 $ avec l'entreprise américaine, avec québécoise, mais qu'avec le tarif douanier, c'est rendu 110 $ pour un produit, puis que vous allez aux États-Unis à 105, c'est quand même 5 $ de plus que le consommateur américain va devoir payer. Donc, ultimement, ça fait mal aux entreprises québécoises, ça fait mal aux consommateurs américains, puis on y gagne pas. Malheureusement, c'est la trajectoire. Elle est très claire. Tu l'as dit. Moins 91 000 emplois depuis le début de l'année. C'est alarmant. Et là, ce que je veux dire, parce que c'est fort important, ce que ça vient mettre en lumière, c'est quoi? C'est l'importance d'avoir un bon accord commercial en 2026 avec les États-Unis. On parle beaucoup de l'Europe, c'est important l'Europe. C'est pas juste le fun pour aller voyager en Italie à Rome, même si c'est très beau, là. C'est un partenaire commercial. Mais soyons clairs, les États-Unis sont nos voisins. Les États-Unis vont rester notre premier partenaire commercial. Dans ce contexte-là, on doit se concentrer à la fois pour diversifier nos exportations, mais avoir un excellent accord commercial si on veut s'assurer d'avoir un dynamisme économique au Québec.
Tu me voles les mots de la bouche, j'allais te dire, maintenant qu'on a ce voyant rouge-là, il faut vraiment que Mark Carney, qui joue la stratégie de la patience, là, se mette à l'action avec les États-Unis parce que sinon, ça va être un recul. C'était pratiquement dramatique en 2026 au niveau de l'emploi, autant au Québec qu'au Canada.
Absolument. Puis oui, on le dit, le Canada est le plus gros partenaire commercial des États-Unis, mais c'est l'échelle de dépendance entre le Canada, du Canada vers les États-Unis et les États-Unis vers le Canada. On est sur deux planètes différentes, là. Évidemment, qui ont énormément besoin de notre énergie, que ce soit l'électricité, surtout le pétrole et le gaz albertain. Encore une fois, on y revient, mais c'est très important pour les raffineries du Midwest américain. Mais une chose est sûre, il faut que le Canada, puis c'est plate à dire parce qu'on aime ça avoir une belle posture, mais c'est les États-Unis le géant économique en Amérique du Nord. Puis les États-Unis sont notre premier partenaire commercial. Alors on doit et on va en faire des concessions. Je pense qu'il faut être proactif. La gestion de l'offre, c'est une concession qui est bon pour les consommateurs québécois, bon pour les consommateurs canadiens, bon pour la renégociation de l'accord libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Et donc c'est une concession que le gouvernement fédéral doit intégrer dans sa réflexion et pas faire de posture morale dans l'espace public canadien pour nous expliquer qu'on va tout défendre. Parce que si on défend tout, pas sûr que l'accord de libre-échange va être si intéressant. Puis, in fine, même si c'est une posture, quelle sera réellement la conséquence? Pas sûr qu'on veut le savoir collectivement si on a un mauvais accord.
Gabriel Giguère, lorsque Zoran Mamdani a été élu à New York comme maire de la ville, il a parlé de faire des épiceries publiques. Lorsqu'il a été élu, on a eu Ruba Gazal en entrevue à l'émission Nageur. Elle a dit « Nous, on va s'inspirer de Mamdani parce qu'on est sûr qu'on va réussir à avoir un courant populaire comme lui. » Mais là, depuis 2 jours, j'entends personne me dire que c'est une bonne idée, les épiceries publiques, que ce soit au nord ou au sud de la frontière. Est-ce qu'ils ont raison?
Ben, faut pas se surprendre, JF. Il y a personne qui veut perdre de l'argent en tant que contribuable. Donc, on peut pas soutenir ce type d'approche-là si on veut pas perdre d'argent en tant que contribuable. Ce qu'on voit, là, puis c'est parce qu'il faut juste revenir à la base. Le public n'a pas les mêmes incitations économiques que le privé. Si vous êtes un privé, comme un Loblaw, un IGA, peu importe, un métro, un maxi, vous devez offrir le meilleur produit au moindre coût, à tout le moins que vous avez segmenté le marché, parce qu'évidemment, si vous allez au métro, ça ne sera pas le même prix qu'au maxi, mais vous voulez offrir le produit qui convient. Mais si vous n'êtes pas capable, si IGA, tout d'un coup, vend trop cher ou ne vend pas des produits de qualité, qu'est-ce qui va se passer? pas compliqué, je vais aller au métro, je vais aller au Super C. Bref, vous devez offrir un bon produit de bonne qualité à un prix convenable, sinon, vous allez disparaître du jeu. L'État n'a pas cette pression-là. Si l'État offre un produit qui n'intéresse pas les gens, parce qu'on maintenant on va peut-être tout devoir manger des Froot Loops, puis de Frosted Flakes, c'est fini, il va y avoir moins de céréales, c'est bien dommage, j'espère que vos petits aiment ça, ben ça fait en sorte que même si vous n'allez pas à l'épicerie d'État, puis on en jette bien gros des boîtes de Froot Loops, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas vous en tant que consommateur qui allez payer moins cher, c'est vous en tant que contribuable qui allez payer pas mal plus cher parce qu'il va falloir subventionner davantage comme on a vu ailleurs dans le monde.
Donc, autrement dit, ces fameuses marges de profit-là que les détaillants se prennent, et encore là, corrige-moi si je me trompe, mais dans l'épicerie, c'est à peu près un 3% qui se prennent. Bien, c'est 3% qu'on va redistribuer à l'ensemble des citoyens du Québec.
Ça, c'est intéressant. Deux commentaires là-dessus. C'est souvent ce qu'on entend. Ah, 3 %, l'État va pouvoir faire disparaître ça. Non, non, l'État fera pas disparaître ça. L'État sera pas capable de le faire parce qu'on n'a pas les mêmes incitations. Si le consommateur n'est pas présent, le contribuable va toujours l'être. Et avec l'État derrière, vous allez payer. Ça, c'est pas une question de choix, c'est une question d'obligation. Donc, on n'a pas cette même approche-là, il faut dire également que c'est de la logistique qui est extrêmement complexe et que l'État n'a absolument pas l'expertise pour faire ça.
C'est
Donc,
clair.
dans un meilleur des mondes, c'est ça qui arriverait. Puis je vais revenir sur la question de la marge parce que c'est incontournable. 3 %. Quand on lit le rapport de 2024 du Bureau de la concurrence sur les épiceries au Canada, qu'est-ce qu'on nous dit du fait qu'il n'y a pas assez de concurrence internationale au Canada? Il n'y a pas assez de chaînes. Et la raison, il y a plusieurs raisons, notamment la réglementation, mais la grande raison, c'est que les marges de profit sont trop basses et on ne sera pas capable de vendre des produits sous le prix des concurrents canadiens. Autrement dit, faut arrêter de parler de marge trop élevée.
Ben oui.
C'est le contraire. Donc voilà.
Merci Gabriel Giguère, c'est toujours un bonheur de te parler. Je te souhaite un bon week-end, un excellent match de hockey ce soir, un bon match de hockey dimanche. Et parlant de hockey, Pascal, ben ça va être Alex Laramé qui va venir nous jaser de ça. C'est quoi ta prédiction pour le match de ce soir, Gabriel Giguère?
Ben mon cœur me dit le Canadien, puis il va sûrement convaincre ma tête que c'est le Canadien. Fait que la prochaine fois qu'on se reparle, ça va être 2-1 Canadien dans la série,
oh!
peut-être 3-1.
Il
À
est
suivre.
Confiant.
Il faut.
Gab Giguère, toujours un bonheur. Tu nous vulgarises l'économie de façon impeccable.
Merci beaucoup. Salut.
Salut, Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Eh oui. T'sais, c'est sûr, on va parler politique avec Lambert Drainville tantôt, puis de carte électorale avec Youri Chassin. Mais le monde, il va nous entendre parler d'hockey présent.
Ouais, le Québec est hockey.
Le Québec
le
est
Québec
hockey.
Le Québec est hockey.
Deuxième match de la série ce soir, à Buffalo. Et en gros, hein, Pascal?
Tantôt, là, je me suis rendu compte que vous m'avez rendu superstitieuse dans quelque chose que je ne suis pas nécessairement.
Vas-y donc.
Puis j'étais comme, hey Max, j'ai dit en onde, t'as-tu fait jouer ta toune aujourd'hui? Il disait, ah non, comme convenu, c'était assez, puis tout ça. Il dit, on a perdu avec la toune mercredi, fait que ça a donné le go au boss de dire, c'est assez, on a entendu la toune. Mais moi, j'étais pas bien, je me disais, comme dans le temps que Ginette Reno faisait l'hymne national,
oui.
Là, les moments où elle a pas été là, j'aimais pas ça.
En effet.
Mais je suis pas ça. Fait que là, tout le monde qui a une tradition ce soir, s'il vous plaît, faites-la.
Ouais.
On a besoin de l'énergie de tous.
C'est ça. On parlait avec Alex Laramé après la pause.
Pour que vous disiez encore que ça va être Buffalo qui va gagner.
De ce match de ce soir.
Ouais,
il y a
ouais.
un match aussi dimanche. Les autres séries aussi vont continuer à se disputer cette fin de semaine. Ça va être très intéressant. C'est ce qu'on va parler avec Alex Laramé. Juste avant, là, je veux te lire un courriel de Kim, un auditeur assidu à Boulevard 101. Aussitôt que Carney va faire des concessions avec les États-Unis, le peuple canadien va le ramasser en disant qu'il ne se tient pas debout. Contre le gros épais, en parlant de Donald Trump. Carney est dans une position de merde. Hey, je suis d'accord. Il est tellement perdant. Il ne pourra jamais faire plier Trump, surtout. Fait qu'il va faire des concessions. Puis ça, des concessions, là, c'est le principe d'une négociation.
Oui, mais avec Trump, c'est comme la fameuse situation qui rapporte. Mais toi, tu es en couple. Maintenant, tu es en couple ensemble.
Ouais.
OK, moi, je veux un chat, t'en veux pas.
Oui.
J'en veux un, t'en veux pas.
J'en
fait
veux
qu'on va
pas.
Faire une concession, on va en avoir un. C'est ça,
c'est souvent
une caricature. Mais avec Trump, c'est ça qui se passe. Le gars fait pas vraiment de concessions. Puis on
non.
le voit avec l'Iran. Il commence à perdre la force dans ses négociations. Puis dans le fait de dire, hey, je vous bombarde si jamais vous écoutez pas ce que je dis, nanana. Il commence à prendre un peu moins au sérieux dans le monde, Donald Trump. Mais...
Ouais. Ça fait 70 jours qu'il répète la même chose.
Ouais, mais tu sais, il respecte pas toujours sa
non.
partie de l'entente. Dans
en
une
effet.
Entente, t'es supposé.
T'as entièrement raison. Alex Laramé. Qui vient nous parler de hockey par la suite. Et Lambert Drainville, on va dresser un bilan de la première semaine de Christine Fréchette à l'Assemblée nationale. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101, c'est l'émission d'En Jase.